Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, la République centrafricaine souhaite accueillir une base militaire russe sur son territoire, un sénateur américain se félicite de voir des Russes mourir et le vainqueur de la présidentielle turque est connu. Artemyovsk a été libéré. Un analyste français et un politologue russe réagiront à ce tournant dans l'opération spéciale russe et dévoileront les perspectives que sa libération offre à l'armée russe. Sergueï Lavrov est arrivé au Kenya. Un enseignant-chercheur algérien en géopolitique commentera cet événement. Le 29 mai, c'est la journée des forces de maintien de la paix des Nations Unies. Souleyman Hamzat, spécialiste béninois des questions de sécurité, analysera pour Spoutnik Afrique les activités des casques bleus en Afrique. Le président nigérien a critiqué la présence française en Afrique tout en la défendant dans le Sahel lors d'une interview. Un militant nigérien analysera cette déclaration contradictoire à notre micro. La République centrafricaine souhaite cimenter davantage ses liens avec la Russie. Léon Dodonou Pounagaza, ambassadeur de RCA en Russie, a déclaré lors d'une interview pour un média russe que la coopération militaro-technique de son pays avec Moscou devait se poursuivre. Pour cela, il a estimé que la Centrafrique avait besoin d'une base militaire russe avec 5 000 à 10 000 soldats. Il a ensuite ajouté que ce contingent pourrait, si nécessaire, être mis à contribution dans d'autres pays. Le diplomate a indiqué que la menace sécuritaire dans son pays s'accentue en raison de l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan, ravagé par un conflit meurtrier. Monsieur Dodonou Pounagaza a également une pensée pour la France. Paris est très mécontente du rapprochement de Bangui avec Moscou, mais l'ambassadeur l'a assuré. Maintenant, la Russie sera avec la République centrafricaine, et c'est tout. Pour rappel, en 2020, la Russie a envoyé en RCA 300 instructeurs russes et 4 hélicoptères avec équipage pour aider Bangui à lutter contre une offensive de rebelles qui a failli saper des élections longuement préparées. Grâce à ce dispositif, l'armée centrafricaine a pu mettre en déroute une grande partie de ses groupes armés illégaux. Selon l'ambassadeur russe en RCA, Alexandre Bikantov, 1890 instructeurs russes se trouvaient en RCA en février 2023 et Bangui souhaite faire augmenter leur nombre. Un sénateur américain s'est réjoui de la mort des Russes. Lindsey Graham, représentant de la Caroline du Sud, s'est rendu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Monsieur Zelensky a remercié le Sénat américain pour le soutien accordé à son pays, avec notamment une nouvelle aide de 375 millions de dollars. Monsieur Graham a ensuite prononcé des propos purement scandaleux. Il s'est félicité de voir des Russes mourir et a estimé que son pays n'avait jamais aussi bien dépensé son argent. Toutefois, il faut souligner que ce sénateur américain est coutumier des propos russophobes. Peu après le début de l'opération spéciale russe, il avait écrit sur les réseaux sociaux que celui qui tuera le président russe rendra un grand service au monde. Suite à l'incident du drone américain abîmé en mer Noire, M. Graham avait proposé à Washington d'abattre tout avion russe s'il approchait d'un autre appareil volant américain volant au-dessus des eaux internationales. Cette fois-ci, sa dernière sortie russophobe n'est pas passée inaperçue auprès des autorités russes. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a estimé qu'il était honteux pour les États-Unis d'avoir un tel sénateur. Enfin, le ministère de l'Intérieur russe a émis un mandat d'arrêt contre le sénateur américain. M. Graham semble avoir la mémoire courte. Lorsque les États-Unis ont été frappés par les terribles attentats du 11 septembre 2001, Vladimir Poutine a fait partie des premiers chefs d'État à avoir contacté le président de l'époque, George W. Bush, afin de lui témoigner de son soutien. Les électeurs turcs ont fait leur choix. Ils ont été convoqués aux urnes dans le cadre du deuxième tour des élections présidentielles pour choisir celui qui sera à la tête de leur pays. Et c'est le président sortant Recep Tayyip Erdogan qui l'a emporté avec plus de 52% des suffrages contre son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Plusieurs chefs d'État étrangers ont déjà adressé leurs félicitations au président turc. Il s'agit notamment de Vladimir Poutine, du président algérien Abdelmajid Tebboune, ainsi que du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'ex-président américain Donald Trump a également salué la victoire de M. Erdogan. Pour le continent africain, ce résultat est une bonne nouvelle. Sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a été très active sur le continent africain. Elle aide notamment les pays africains sur le plan militaire en leur fournissant des armes. Récemment, le Mali a reçu des drones Bayraktar de la part de la Turquie qui vont l'aider à lutter contre le terrorisme. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Après plusieurs mois d'âpres combats, Artemiovsk, plus connu sous le nom de Bakhmout, a été libéré. Pour l'armée russe, cette victoire stratégique ouvre de nouvelles opportunités. Et pour cause, Kiev a perdu un point d'approvisionnement stratégique clé de ses forces armées dans le Donbass. En Occident, les médias ont dans un premier temps refusé de reconnaître cette défaite avant de nier l'importance de cette ville pour Kiev à l'aide d'experts militaires. Washington et ses alliés ne baissent pas les bras malgré cet échec cuisant. Les États-Unis ont donné leur feu vert pour la remise d'avions de combat F-16 à l'Ukraine qu'elle réclamait depuis longtemps. Pour analyser toutes ces dernières évolutions sur le front, deux spécialistes se sont succédé au micro de Spoutnik Afrique. Je vous présente l'analyste français Bertrand Scholler et le politologue russe Ivan Mizukho. Écoutons tout de suite M. Scholler au micro de mon collègue Kamal Louadj.
Monsieur Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Oui, bonjour. Bonjour.
Alors, l'armée russe a pris Artyomovsk au Bakhmout, comme l'appellent en général les médias. Quelle est votre réaction à cet événement ?
Depuis le début de l'opération spéciale, il y avait la volonté de réunir le Donbass sous la même bannière. Et c'est sur le point d'être réalisé. Parce qu'en fait, Bakhmout était la ville, le cadenas en fait pour empêcher ça de se produire, puisque c'était la ville la mieux défendue, la mieux armée. Et si vous vous rappelez, il y a 4 mois devant le Congrès américain, Zelensky avait expliqué que c'était la ville d'où partirait en fait la contre-offensive et qui était la ville essentielle. Donc la perte de Bakhmout est une catastrophe stratégique pour le régime de Kiev et pour l'OTAN qui a abreuvé cette ville de mercenaires, de troupes, d'armes, de stratégies. Alors, Artyomovsk était une ville importante parce que effectivement c'est sur des grands axes de communication et donc c'est important surtout. C'était un cadenas en fait pour empêcher la Russie d'avancer, donc par exemple de prendre en tenaille une ville comme Kharkov, puisqu'en fait ça va permettre de contourner cette ville si jamais ça faisait partie de la stratégie des Russes. En fait, c'est un point clé pour prendre en tenaille absolument toute la ligne de défense ukrainienne. Donc quand vous cassez le verrou de Bakhmout, vous pouvez aller dans toutes les directions. Mais c'était aussi une ville qui était stratégiquement importante et ça a cristallisé en fait beaucoup d'efforts de la part de l'OTAN et du régime de Kiev puisque les armes, les approvisionnements arrivent essentiellement par la Pologne. Mmh. Et donc il y a plus de 1500 kilomètres qui étaient faits pour envoyer des armes, pour envoyer des troupes de l'endroit où elles sont formées, puisque beaucoup de troupes ukrainiennes sont formées en Europe, donc Pologne, Allemagne, y compris France, Angleterre. Toutes ces troupes arrivent par la Pologne. Et donc, le fait d'avoir un point de cristallisation militaire à Bakhmout, ça donnait d'autant plus d'occasions aux Russes de bombarder, de rendre difficile l'approvisionnement. Donc, ça a véritablement épuisé l'OTAN et ça a épuisé l'armée ukrainienne, cette résistance longue à Bakhmout, beaucoup plus que les Russes, qui les Russes n'avaient finalement pas beaucoup de chemin à faire pour continuer l'opération sur Bakhmout. Donc militairement, on a une grosse démoralisation de l'Ukraine, donc qui tente tout type de contre-feu médiatique comme ce qui s'est passé à Belgorod pour faire oublier cette défaite stratégique est beaucoup plus importante que pour Mariupol puisque Mariupol était tombée en étant entièrement encerclée par les Russes alors que Bakhmout il y avait toujours des lignes d'approvisionnement ce qui veut dire que même avec un approvisionnement à flux continu qui était rendu difficile par les Russes la ville est tombée.
Est-ce que vous estimez que tout ce qui a été livré, en particulier concernant les chars, Léopard et autres, finalement c'était pour rien ? Et que pensez-vous des dernières déclarations sur la formation de pilotes ukrainiens en vue d'une livraison encore, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas, il y a un accord qui a été donné notamment par les États-Unis pour livrer des F-16. Est-ce que ça vaut encore le coup ?
Les Américains ont donné une licence d'exportation des F-16 vers l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des F-16, les Américains également en ont beaucoup. Donc le message, effectivement, ça veut dire que l'aviation ukrainienne pourrait, entre guillemets, renaître. Ce qui veut dire des attaques qui n'ont rien à voir avec, ou pas forcément à voir avec le front, puisqu'en fait, les avions servent essentiellement à envoyer des missiles. On a vu hein, les missiles Scalp, les missiles anglais, etc., à 300-400 km. Et donc, c'est clairement la Crimée et la Russie qui sont visés. Donc, ils n'ont pas l'intention de gagner la guerre. On est véritablement entré dans une notion de terrorisme, donc de terrorisme militaire avec des avions qui pourraient faire mal donc en territoire russe et vers des villes, beaucoup plus mal que les obus de 155 qui sont tirés par les canons César et qui font déjà beaucoup de mal, ou par les missiles Tochka. Donc on est dans une escalade véritablement de terrorisme d'État, puisqu'on va changer de statut. Il y avait une opération spéciale contre l'Ukraine qui résistait, entre guillemets, à cette opération spéciale avec de l'aide. Quand vous commencez à donner des avions et des missiles qui n'ont de sens que pour attaquer loin, donc pour tirer des missiles qui vont aller au-delà des frontières, bah c'est plus du tout la même chose. Donc on a véritablement cette escalade vers la guerre.
D'accord, mais encore une question. J'aimerais bien aussi avoir votre avis sur ça. Vous savez bien que depuis le début de l'opération, enfin jusqu'à dernièrement, l'armée russe a pratiquement détruit tous les moyens et tout le matériel de guerre électronique, de soutien à l'aviation. Pendant des mois, l'aviation russe domine le ciel. Est-ce que vous pensez que si tant est que ces avions sont livrés et que les Occidentaux tiennent parole et qu'ils livrent ces avions, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer la donne?
Absolument pas la donne. C'est pour ça que j'utilisais le mot terrorisme d'État. Ouais. C'est pour faire des coups d'éclat. Vous savez, quand il y a eu cette attaque de drone sur le Kremlin, bon, ça s'est transformé en ils ont voulu attaquer Poutine. En fait, c'était un acte beaucoup plus symbolique. En fait,
médiatique,
les drones visaient le dôme du Sénat. Et on voit bien qu'un dôme comme le Sénat qui est là-bas, avec une bombe même pas très importante, il aurait pu s'effondrer et on aurait pu avoir un événement aussi marquant que l'incendie de Notre-Dame ou autre. Puisque si la coupole était tombée, ça aurait été hautement symbolique. Donc je pense qu'ils sont véritablement dans les symboles. Ils essaient de faire croire qu'en ce moment, à l'intérieur de la Russie, donc c'est ce qu'ils veulent faire croire sur Belgorod, ce sont des Russes qui se soulèvent contre l'État russe. Donc on rentre dans une période qui a largement démarré bien avant le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de sabotage véritablement de terrorisme. Et les avions risquent de servir à ça. C'est ce qui est terrible. Et puis vous parlez de la formation de pilotes. Mmh. Vous savez bien que beaucoup d'armées ont des volontaires qui peuvent décider de changer ponctuellement de nationalité et toute
Absolument,
la paperasse
ouais.
se fait facilement.
Les Polonais,
donc,
d'ailleurs, l'ont fait.
Il aura la nationalité du pilote de l'avion.
Oui, parce que quand même, on ne forme pas un pilote du F-16, d'un F-16 en 3-4 mois. C'est invraisemblable.
Non, c'est impossible. Donc, il y a quelque chose d'autre qui se passe, il y a quelque chose d'autre dans les esprits. Vous savez, il y a des mercenaires auxquels on propose au Moyen-Orient et au Maghreb de rejoindre le front. Vous avez sans doute déjà vu toutes ces annonces qui fleurissent partout. C'est vraiment une tentative de recruter partout dans le monde des gens qui ont des connaissances en mécanique pour réparer les équipements détruits. Il va y avoir ça pour des pilotes, il va y avoir ça pour tout. On voit bien que tous les moyens du monde occidental sont mis pour essayer de briser l'opération spéciale russe. Ça échoue invariablement, mais les médias n'ont aucune mémoire. Aucun média ne se rappelle qu'il y a 4 mois, devant le Congrès américain, Volodymyr Zelensky expliquait que Bakhmout, c'était une ville essentielle, qu'il fallait énormément d'efforts et de moyens, parce que c'était au travers de cette ville que tous les efforts russes allaient être brisés. Et maintenant que Barmouth est tombé, ils disent non, en fait, c'était rien, c'est une petite bourgade qui n'a pas d'importance. Mais personne ne fait l'effort de chercher ce qui était dit il y a 4 mois. Et c'est ce qui est scandaleux. C'est qu'on passe notre temps à mentir aux gens. Et c'est pour ça que je réponds toujours avec beaucoup de plaisir à vos questions. D'abord parce que je les connais pas avant, et je suis pas censuré, et ce que je dis est retransmis comme ça. Et c'est essentiel, il faut faire appel à l'intelligence des gens, il faut faire appel à leur mémoire, il faut leur apprendre à faire comprendre les enjeux. Barmouth était une ville essentielle. Si vous prenez une carte, vous allez voir que maintenant tout le Donbass peut être réuni assez facilement. Et surtout, c'est une ville qui va permettre, dans une ligne de front, c'est véritablement un cadenas qui va permettre d'aller vers d'autres grandes villes et d'éventuellement continuer, si la guerre ne s'arrête pas, à avancer dans le territoire ukrainien pour faire cette guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, comme vous avez dit et répété, plus aucun moyen militaire, plus aucun moyen de nuire à l'intérieur du territoire ukrainien à la Russie. Il n'empêchera pas l'OTAN de toujours vouloir... On découvre, mais l'OTAN également est considérablement affaibli parce qu'aucun des pays d'Europe ne réussit à mobiliser une armée significative, ne réussit à produire des armes en quantité significative. Il y a une énorme dépendance vis-à-vis des États-Unis, et je pense qu'aux États-Unis, il commence à y avoir une lassitude et même auprès de certains une véritable inquiétude, parce qu'il y a des médias qui font le même travail que vous et qui disent haut et fort que l'Ukraine ne pourra pas gagner, qu'elle ne peut résister que parce qu'elle est sous intraveineuse militaire et financière de l'OTAN, pour simplifier. Mmh. Et donc tout ça n'a pas de sens. Les Ukrainiens souffrent et personne ne leur demande ce qu'ils veulent.
Exactement. Et c'est ça. Et c'est justement ce qui est choquant dans le comportement de beaucoup de médias, c'est que personne ne parle de la souffrance du peuple ukrainien.
Oui, qui est terrible. Les Russes, vous savez, dès le début, si vous regardez la guerre des Américains en Irak ou les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, immédiatement, plus d'électricité, plus d'eau, plus de médicaments. Les Russes, il a fallu qu'ils attendent que Nord Stream soit saboté, le pont de Kerch soit attaqué, pour commencer à toucher les infrastructures électriques qui allaient faire souffrir les Ukrainiens, parce que ça n'a jamais été l'intention de la Russie. C'est l'intention de la Russie, et de la stratégie, ça a toujours été clair, c'était stopper, entre guillemets, l'avancée de l'OTAN et cette volonté sans cesse d'enfermer de plus en plus la Russie. Le monde entier souffre, puisque... il y a une inflation, il y a des risques de famine. Vous êtes une radio africaine et vous savez bien de ce dont je parle, les risques qui peuvent toucher l'Afrique si les approvisionnements n'étaient pas maintenus par la mer Noire, hein, par les accords avec les Turcs. Mais cet événement est majeur.
Vous parlez de la livraison des céréales et des engrais. Exactement. Pour l'agriculture.
Exactement, et c'est essentiel. Et une des conséquences de l'attitude de l'OTAN qui utilisait les bateaux de grains pour livrer des armes, des munitions, etc., et avait obligé la Russie à changer la règle du jeu, en fait, pour le transport maritime, puisque c'était à sens unique.
D'accord. Je vous remercie, Monsieur Scholler, pour cet entretien très riche en informations. Je salue votre courage, comme d'habitude. J'espère vous retrouver dans une autre occasion pour commenter un autre problème. Merci beaucoup.
Oui, à bientôt.
À bientôt, merci.
C'était Bertrand Scholler, analyste français. Au micro de mon collègue Kamal Louadj, il a réagi à la libération d'Artemiovsk qui constitue une grande avancée dans la libération du Donbass. Maintenant, nous allons prendre la direction de la Russie où le politologue russe Ivan Mezukho nous attend. Les troupes russes ont libéré Artemiovsk. Comment évaluez-vous l'importance de cette victoire dans les opérations militaires en cours ?
Je pense que cette victoire a d'abord une signification symbolique. Pendant de nombreux mois d'affilée, nous entendons de l'Ukraine que ses forces armées ne quitteront jamais Bakhmout, comme ils appellent notre Artyomovsk. La présidence, le commandement, des blogueurs et des experts pro-gouvernementaux ukrainiens ont affirmé que l'armée ukrainienne était invincible et que les Russes ne prendraient jamais cette ville. Nous avons vu que la propagande ukrainienne mentait, qu'elle cachait et cache toujours les pertes essuyées pendant ce soi-disant hachoir à viande de Bakhmout. Et je pense bien sûr que la libération d'Artyomovsk a un effet démoralisant sur la société ukrainienne, du moins dans sa partie radicalisée qui croit encore au mythe russophobe de sa propre propagande.
Avant la libération d'Artyomovsk, la presse occidentale a beaucoup écrit sur la fourniture de diverses armes à l'armée ukrainienne. Comment pensez-vous que la prise de cette ville affectera la logistique des forces armées ukrainiennes et, en général, le déroulement des hostilités ?
Vous savez, il est difficile de dire comment la libération d'Artyomovsk affectera la logistique des forces armées ukrainiennes. Mais à mon avis, nous pouvons certainement dire qu'aujourd'hui, sur fond de défaite, l'Occident exigera encore plus activement que l'Ukraine lance sa soi-disant contre-offensive qui a été annoncée il y a longtemps, mais qui n'est toujours pas mise en œuvre. Zelensky, Podolyak, Arestovitch et d'autres fonctionnaires publics du régime de Kiev ont constamment arrosé leur société avec des informations sur la contre-offensive à venir. Le chef d'État ukrainien a promis à ses curateurs occidentaux de contre-attaquer. Ces promesses sont restées des promesses. Et aujourd'hui, à mon avis, sur fond de cette défaite militaire qui a une signification symbolique, l'Occident forcera et encouragera Zelensky à lancer ses soldats dans une contre-offensive suicidaire qui pourrait coûter cher à l'État ukrainien. La libération d'Artyomovsk, à mon avis, pourrait rapprocher la date d'action aux imprudentes de la part des forces armées ukrainiennes.
Les dirigeants occidentaux ont également parlé ces dernières semaines de leur volonté de former des pilotes de chasse ukrainiens et de fournir des F-16 américains. Comment réagissez-vous globalement à ces déclarations ? Que pensez-vous de ces déclarations dans le contexte actuel ?
En fait, les déclarations des dirigeants occidentaux avant et après le sommet du G7 ne sont pas sensationnelles. En général, je suis enclin à considérer la visite de Zelensky à Hiroshima comme un échec en grande partie. Il n'a pas reçu le soutien qu'il aurait souhaité. Ne savions-nous pas avant que les F-16 seraient livrés à Kiev ? Bien sûr que si. Les dirigeants occidentaux n'ont-ils pas déclaré leur soutien au régime ukrainien au cours des mois précédents ? Bien sûr qu'ils l'ont déclaré. À mon avis, aujourd'hui, dans une plus large mesure, ces déclarations sur le soutien à l'Ukraine et sur la fourniture d'avions et d'autres types d'armes sont faites pour les apparences. Car premièrement, les pilotes doivent encore être formés. Deuxièmement, les armes doivent être livrées. Et troisièmement, on ne sait toujours pas quelle sera la situation réelle sur le champ de bataille. Parce que si demain Zelensky fait une tentative désespérée d'une soi-disant contre-offensive, les forces armées de la Fédération de Russie abattront simplement les soldats ukrainiens. Et cela sera une énorme tragédie pour des millions de familles en Ukraine. Et je ne doute pas que, très probablement, Zelensky se décidera à cet acte désespéré. En général, il voyage de plus en plus souvent à l'étranger. Probablement parce qu'il ne se sent pas en sécurité sur le territoire ukrainien après la provocation contre la résidence du président russe Vladimir Poutine au Kremlin.
La semaine dernière, un groupe de sabotage ukrainien est entré sur le territoire de la région de Belgorod. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le régime de Kiev, après avoir subi une défaite dans la ville d'Artyomovsk, est passé à la mise en œuvre d'actions terroristes contre la population civile.
Bien sûr, le sabotage de ce groupe ukrainien visait à faire passer les flux d'informations du sujet de la défaite de l'Ukraine, Artyomovsk, à une victoire imaginée des saboteurs ukrainiens dans la région de Belgorod. De toute évidence, les initiateurs de cette provocation, à mon avis, n'ont pas obtenu beaucoup de succès en termes de gestion de l'information. Par ce sabotage, ils n'ont pas réussi à détourner complètement l'attention des sociétés ukrainiennes et occidentales de l'analyse des raisons de la défaite de l'Ukraine à Artyomovsk. Le fait que les forces armées ukrainiennes, les représentants du président ukrainien et les membres de sa société tentent de présenter la situation sous un mauvais jour n'est absolument pas surprenant. Vous savez, aujourd'hui, il est temps de dire que l'Ukraine utilise les outils de l'Allemagne nazie. Pendant l'existence du Troisième Reich, de soi-disant bataillons nationalistes ont été créés qui, bien sûr, n'étaient pas des unités indépendantes. L'Ukraine a créé les soi-disant formations armées russes, entre guillemets, au sein des forces armées ukrainiennes et les a lancées dans le sabotage en direction de la région de Belgorod. Elle voulait ainsi convaincre l'Occident que Kiev adhère aux accords, c'est-à-dire qu'elle ne mène pas d'opérations militaires sur le territoire russe. La situation est présentée de telle manière que les Russes de l'opposition attaquent d'autres Russes qui soutiennent le gouvernement russe et l'opération spéciale. Mais en fait, on ne sait pas avec certitude combien de citoyens russes appartiennent réellement à ces formations armées dites russes, telles que Freedom of Russia, et combien de citoyens ukrainiens sont dans ces formations. De plus, on a davantage l'impression que ces bataillons dits russes mènent principalement leurs activités et opérations de combat sur les réseaux sociaux et non sur le champ de bataille.
En parlant de couverture médiatique, vous avez dit qu'il s'agissait en partie d'une tentative de détourner l'attention des médias d'un événement sur un autre. Après la libération d'Artemiovsk, on voit que les médias occidentaux couvrent très mal la victoire de la Fédération de Russie dans ce sens. Comment expliquez-vous un tel éclairage ?
Les médias occidentaux sont tombés dans le piège tendu par leurs homologues ukrainiens. Après tout, ce sont les responsables ukrainiens qui ont longtemps déclaré qu'ils ne quitteraient jamais Artyomovsk. Ce qu'il s'est passé est ce qu'il s'est passé. Ils ont quitté la ville, la Russie a libéré Artyomovsk du régime de Kiev. Et dans ce contexte, les médias occidentaux ne peuvent pas dire que l'Ukraine a subi une défaite. Je pense qu'ils n'ont toujours pas trouvé de justification plus ou moins sensée pour expliquer à leurs téléspectateurs, auditeurs et lecteurs ce qu'il s'est passé. Car dans l'ensemble, les médias ukrainiens restent aujourd'hui en fait dans une semi-prostration. Pourquoi une semi-prostration ? Parce que d'une part, ils semblent avoir admis que la ville est perdue, et d'autre part, ils essaient aussi en quelque sorte d'en parler le moins possible, car apparemment de nouvelles instructions ne sont pas encore venues du bureau du président ukrainien, qui expliquerait comment présenter cette information, cet événement dans les médias.
C'était Ivan Mezuikho, politologue russe pour Sputnik Afrique. Il a commenté la récente libération d'Artemiovsk et analysé la couverture médiatique occidentale de cet événement qui ont tenté de nier cette victoire clé de la Russie. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako. Je vous salue si vous venez de brancher votre poste de radio sur 99.5 FM. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé au Kenya pour rencontrer plusieurs responsables politiques locaux. Il se rendait à Nairobi pour la première fois depuis 13 ans. C'est également le quatrième déplacement de M. Lavrov en Afrique en moins d'un an. Récemment, le continent africain s'est distingué en annonçant la création d'une initiative de paix. Toutefois, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo a souligné le scepticisme de Washington et de Londres face à ce plan. Sergueï Lavrov a réagi face à ces propos et a expliqué pourquoi les USA et la Grande-Bretagne ne croient pas à cette initiative africaine. Écoutons-le.
Peut-être que Washington et Londres ne peuvent accepter, comme ils l'ont déclaré publiquement et à plusieurs reprises, rien d'autre que la formule de paix de Zelensky qu'ils insèrent dans tous les documents du G7, de l'OTAN et de l'UE et exigent de tous qu'ils y adhèrent. Permettez-moi de vous rappeler que cette formule implique le retrait des troupes russes et le retrait de la Russie de tous les territoires, Crimée, Donbass et autres nouveaux territoires, des régions de Zaporogie et de Kherson. Ensuite, un tribunal sur la Russie, sur les dirigeants russes. Après cela, le paiement des soi-disant réparations. Et seulement après tout cela, l'Ukraine acceptera gracieusement de signer un traité de paix. Considérant qu'il y a 2 ou 3 ans, Zelensky a déclaré que si un citoyen ukrainien se sentait russe, il devait, au nom de l'avenir de ses enfants et petits-enfants, retourner en Russie, il convient également de garder à l'esprit que messieurs Danilov et Podolyak ont déclaré qu'après la restitution de la Crimée et des territoires orientaux, ils extermineraient tout ce qui est russe dans ces régions, y compris la destruction physique des citoyens russes. Cette position de l'Occident et son adhésion uniquement à cette formule barbare et bestiale de Zelensky signifie qu'ils sont prêts à soutenir un génocide. Je n'ai rien à ajouter.
Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université algérienne de Blida 2, a énoncé les enjeux de la visite de Sergueï Lavrov.
Sergueï Lavrov est arrivé au Kenya. Il s'agit de la première visite du chef de la diplomatie russe dans ce pays depuis 13 ans. Donc il va s'entretenir avec plusieurs dirigeants kenyans. Et selon vous, quels sont les enjeux de cette visite alors que le sommet Russie-Afrique approche à grands pas ?
Oui, au fait, donc, comme première lecture de cette visite, nous pouvons dire qu'il s'agit de renforcer d'abord les liens forts qui existent et commencent à prendre forme entre Moscou et les pays africains. De plus en plus, ça devient de plus en plus important. Et je crois que ça s'inscrit d'abord dans une double action. D'abord, les relations bilatérales entre le Kenya et la Russie, d'un côté. Et donc, quelles sont les possibilités de développement, j'allais dire, et quelles sont les démarches à entreprendre ensemble pour quels investissements, pour quel avenir de partenariat entre les deux États. Ensuite, ça rentre, cette visite, on peut la mettre dans le cadre de la relation de Moscou avec les pays africains. Et elle est pratiquement à la veille du sommet du BRICS en Afrique du Sud. Et cela, cela veut dire aussi que, donc, comme l'Afrique du Sud est un pays africain et qui fait partie du BRICS, les ministres, parce que cette visite, d'abord, cette visite inopinée, qui n'était pas attendue, en fait. Donc, il me semble, donc je pense surtout, que M. Lavrov, même après le Kenya, peut visiter dans ces pays africains, que ce soit avant ou après la réunion du BRICS, mais ce qui est sûr, c'est que la Russie entreprend de garder ses relations avec les pays africains. Il faut se rappeler qu'un temps passé, il y a eu la visite du président de l'Ukraine qui essaye aussi des visites américaines répétées, qui essaie d'influencer les pays africains à changer leur position de neutralité par rapport au conflit qui s'est traduit par, j'allais dire, cette pression qui est exercée par l'Occident sur beaucoup de pays du monde, notamment les pays africains. Et là, Sergei Lavrov est plus dans le côté de rassurance et d'assurance que les partenariats et les relations russo-africaines sont solides, sont stables, sont fiables, sont durables. Ensuite, donc, aider, ou quelque part plaider pour qu'il y ait une souveraineté totale dans les prises de décision des pays africains et pour qu'ils ne cèdent pas justement aux influences, j'allais dire, qui risquent plus de mettre les pays africains, on va dire, dans une situation inconfortable.
Justement, vous avez parlé des relations de la Russie avec les pays africains. On a, lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Kenya, M. Lavrov, qui a déjà déclaré que cette visite était une bonne possibilité de remettre les pendules à l'heure et de tracer des projets pour l'avenir. Et donc, qu'est-ce que la Russie peut concrètement apporter au Kenya, selon vous ?
Le Kenya aussi, c'est un pays africain important qui a des potentialités humaines et naturelles et qui a besoin de partenariats ou au moins de diversifier ses partenaires stratégiques sur le plan gagnant-gagnant. Je crois que l'écho de la Russie en Afrique va dans ce sens-là et que les différents domaines dans lesquels les deux pays peuvent œuvrer communément est une voie positive pour les Kenyans du moment qu'ils auront affaire à un pays fiable et qui politiquement ne s'ingère pas aussi dans les affaires internes et qui est à l'écoute et qui peut ramener le plus et compter et espérer au Kenya.
Il y a également un fait curieux, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il s'agit de la quatrième visite du ministre russe sur le continent africain en moins d'un an. Et parallèlement, les pays occidentaux, dont les États-Unis en premier lieu, se sont montrés plus actifs en Afrique et tentent de faire pression sur les États africains afin de les dissuader de coopérer avec Moscou. Et donc, quelle symbolique peut-on voir à travers ce nouveau déplacement de Sergueï Lavrov ?
Quelle
symbolique ?
Écoutez, moi je pense que chacun plaide pour défendre sa politique et sa stratégie. En contrepartie, nous savons que nous sommes dans une trajectoire ou à la croisée des chemins du devenir de l'ordre mondial. Et les pays africains sont, d'ailleurs comme l'ensemble des pays du monde, sont appelés à choisir entre les voies qui leur sont proposés par rapport au nouveau bloc qui seront les principaux axes et pivots de l'avenir. Je crois que Lavrov, il ramène justement ce côté qui s'annonce rassurant pour les pays africains, rassurant sur un plan de partenariat fiable et stable. rassurant ici sur le plan des possibilités à créer des partenariats de développement durable dans différents secteurs. Nous savons que donc comme le Kenya, c'est un pays où l'agriculture peut prendre une place importante. Cela est un excellent moyen pour les deux pays à développer ce créneau ensemble. Mais aussi, je crois que les Russes, avec un certain savoir en matière de technologie médicale, de l'enseignement, dans l'aéronautique, dans différents secteurs autres, où il peut ramener le plus et il peut aider surtout les pays africains à avoir une sécurité, cette sécurité économique et sociale qui permet la stabilité politique. Et je crois que c'est un enjeu important pour le devenir de l'Afrique, notamment pour faire barrière aux crimes organisés et aux différentes formes radicales et qui investissent l'Afrique et qui enrobe les énergies à la base et par conséquent ça crée cette perturbation perpétuelle. Les Africains ont conscience, le panafricanisme là qui montre et qui permet aux Africains de mieux voir et diversifier les partenariats entre un partenariat, obligatoire, qui a jusque-là été dicté ou proposé par les forces coloniales, les néocoloniales, et par ces possibilités d'avoir de nouveaux partenaires, tels que la Russie, tels que la Chine, ou aussi tels que autres puissances régionales africaines, telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie. Donc, autant de possibilités pour les pays africains de développer entre eux un partenariat inclusif, mais aussi de développer de nouveaux partenariats, j'allais dire positifs, notamment avec les pays comme la Russie.
Je vais passer maintenant sur un autre aspect, l'aspect de la diplomatie. Et donc, je répète ma question, sur le plan diplomatique, les pays africains entendent également faire porter leur voix. On a une mission africaine pour la paix en Ukraine qui a été créée et Sergueï Lavrov a annoncé récemment qu'elle prévoyait de se rendre en Russie entre la mi-juin et début juillet. Lavrov a également indiqué pourquoi, selon l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient sceptiques à l'égard de l'initiative africaine visant à résoudre le conflit en Ukraine. Et donc, selon vous, la résolution du conflit en Ukraine sera également au centre des discussions ou non ?
Non, c'est clair. Je crois que l'Union africaine compte reprendre les rênes. Donc, d'abord, les questions africaines qui ont tout le temps été gérées à et dirigé à partir de Paris, de Londres, de Washington, où aujourd'hui, on entreprend en Afrique de prendre les choses en main, notamment, on a dit, les grandes crises africaines, mais aussi internationales. Et je crois que les locomotives de l'Afrique aussi, qui ont un point important dans la gestion de la diplomatie africaine, je parle de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Nigeria, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de Kenya, pour ne citer que cela. Et donc, le fait qu'on commence à réfléchir, à rapporter son soutien à la paix, à la sécurité, à l'ordre mondial, donc en essayant d'être médiateur dans cette question. Rappelez-vous que d'autres pays africains aussi, comme la Libye, l'Égypte, à travers l'Union arabe, la Ligue arabe plutôt, ont entrepris une action similaire. Maintenant, l'Afrique, c'est quand même 55 pays, et c'est un poids qui peut être pesant, que ce soit la possibilité de trouver une solution à cette crise, ou que ce soit au niveau des Nations Unies, l'Assemblée générale, ou ramener le pays au Conseil de sécurité. Et nous savons que ces 35 pays, c'est quand même plus de 30%, hein, c'est-à-dire que 35-38% des États membres de l'ONU.
Je vais passer à la dernière question. On a Sergueï Lavrov qui visitera également l'Afrique du Sud les 1er et 2 juin prochains dans le cadre d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS pour préparer le prochain sommet du groupe des 5 qui sera au mois d'août. Et donc, est-ce que l'on peut s'attendre, selon vous, à des annonces à l'issue de cette réunion?
En fait, on s'optimise, hein, parce que déjà le groupe des BRICS, pour la première fois, vient de dépasser le G7, et il commence à avoir vraiment une position importante dans la citadelle fermée des grandes décisions à l'échelle mondiale. Effectivement, donc, comme il y a des nouveaux candidats au BRICS, on peut s'attendre à ce qu'il y ait l'annonce de l'adhésion de nouveaux acteurs au sein du BRICS, et sachant que cela va définir réellement le parallèle à l'ordre mondial. Car jusque-là, l'ordre mondial tel qu'il a été construit depuis 1945 a été vraiment bafoué, a été sous la même mise de l'Occident, qu'il a été dévié de sa noble mission. Le nouveau groupe de BRICS, il est économique, mais aussi c'est une force de suggestion politique à laquelle un nombre incalculable de pays dans le monde peuvent, j'allais dire, y adhérer ou le rejoindre, comme il serait pendant l'action politique. Nous avons vu que des pays jusque-là très proches des États-Unis d'Amérique, comme le Japon, comme l'Australie, comme la Corée du Sud, ont entrepris de faire des actions, de passer par la banque du BRICS. Tout cela nous donne une idée de ce que peut devenir le BRICS, et de ce que peut faire le BRICS, surtout pour rendre la sécurité durable, mais surtout mettre terme aux dictatures de l'ordre mondial, dans un ordre mondial inégal, en fait.
C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université algérienne de Blida 2. Pour Spoutnik Afrique, il a commenté la visite de Sergueï Lavrov au Kenya, qui intervient en marge du prochain sommet des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS, prévu en Afrique du Sud début juin. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur 99.5 FM depuis Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez nous rejoindre. Aujourd'hui, le 29 mai, c'est la journée des forces de maintien de la paix des Nations Unies. Souleymane Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, analysera pour Spoutnik Afrique ce que font les casques bleus en Afrique et s'il existe d'autres forces capables de résoudre les conflits sur le continent. En 1948, il y a 75 ans, la force de maintien de la paix des Nations Unies, les bérets bleus et les casques bleus, a été créée. Depuis le 29 mai 2003, le monde entier célèbre chaque année la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Comment évaluez-vous l'impact des activités des casques bleus en Afrique et dans le monde?
Pour ce qui est de l'Afrique, je pense, à mon avis, que ça a été un échec, hein, un échec sur toute la ligne. Cette organisation-là qui a été créée était une organisation d'interposition, en fait, au départ. C'était une organisation qui devait d'abord avoir pour technique, hein, stratégique de mettre, n'est-ce pas, en arrêt les belligérants. Vous constatez son impuissance du point de vue tactique, technique et purement militaire. Et c'est dommage que aujourd'hui et plus particulièrement en Afrique, cette organisation-là soit décriée, vu que les objectifs qu'elle s'est fixés elle-même, ces objectifs-là ne sont pas atteints. Elle est décriée aussi bien en Afrique que par le monde, n'est-ce pas? Quand vous allez du côté du Kosovo, vous avez vu avec combien de difficultés ou avec quelles difficultés, n'est-ce pas, cette organisation-là a peiné à faire son travail. Nous pensons que c'est plutôt une organisation budgétivore, n'est-ce pas, qui n'a que faire en termes de résultats concrets sur le terrain.
En 2000, le diplomate algérien Lakhdar Brahimi a proposé une réforme des forces de maintien de la paix et l'ONU a même modifié la stratégie et les principes des opérations. Pourtant, aujourd'hui encore, les casques bleus sont souvent accusés d'inefficacité et certains d'entre eux ont même été soupçonnés d'avoir des liens avec des terroristes. Sans parler des crimes, y compris les violences sexuelles. À quoi attribuez-vous les problèmes des forces de maintien de la paix de l'ONU et existe-t-il un moyen de les rendre efficaces?
Effectivement, vous faites cette analyse avec nous. Disons ce bilan macabre, n'est-ce pas, du fait de toutes les exactions commises par les casques bleus. D'autres sont accusés de viol, n'est-ce pas, pour la plupart d'inefficacité, et surtout, de plus en plus, voilà une organisation qui se mêle au problème, n'est-ce pas, de politique intérieure, et qui sape parfois le moral même des troupes au niveau national. Au fait, je ne pense pas, à mon avis, que le casque bleu soit une unité, n'est-ce pas, de lutte contre le terrorisme. C'est une force de lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est plutôt une force qui a été créée et entraînée dans le cadre, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre et de la paix. Donc une force d'interposition. Je ne pense pas que ce soit une force d'élite dans le cadre un peu militaire, une force de guerre, n'est-ce pas, qui est plus répliquée à toute attaque, soit elle terroriste ou venant d'une autre faction. Je pense que l'Algérien Lakhdar Brahimi, qui avait proposé une réforme, n'est-ce pas, pour en faire une force, n'est-ce pas, une force de combattants, une force stratégique qui puisse répliquer dans le cadre des opérations des Nations Unies à toute éventualité, a vu ses objectifs carrément rangés au tiroir. On peut pas compter sur l'ONU dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte aussi bien contre le terrorisme que dans le cadre de la lutte transfrontalière. Vous voyez le cas de ce qui se passe dans le Kivu, en République démocratique du Congo par exemple. Vous voyez que les populations se lèvent davantage et ne veulent plus en entendre parler. Vous allez du côté du Mali, c'est même pas la peine. N'est-ce pas? Là, les populations sont dans les rues et refusent, n'est-ce pas, aux autorités le renouvellement du mandat de l'AMINUSMA, n'est-ce pas? Et vous allez dans d'autres pays, vous verrez que c'est pareil. Les Nations Unies, à travers cette force-là de maintien de la paix, a perdu toute crédibilité au lendemain, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons connu comme exaction en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement dans la ville de Doué-Coué, où il y a eu le plus grand massacre après les élections post-électorales, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, qui ont d'ailleurs entraîné le pays dans une guerre au nez et à la barbe des Nations Unies, impuissantes, incapables de s'organiser pour faire taire les armes. Donc le bilan, il est totalement négatif, à mon avis, et surtout, il faille réfléchir à trouver des solutions ou à créer des forces, des unités antiterroristes au sein de lutte contre le terrorisme ou contre les terroristes au sein des Nations Unies, et avoir éventuellement des forces combattantes aussi et prêtes à intervenir au besoin dans le cadre de certaines velléités de tentatives de coups de force ou autres. Cela permettrait quand même de faire redorer le blason des forces des Nations Unies, auquel cas ben, c'est une force qui est appelée à disparaître.
La Russie coopère avec un certain nombre de pays africains dans le domaine de la sécurité. L'option d'une coopération bilatérale pourrait-elle être une alternative aux opérations de maintien de la paix de l'ONU?
La Russie coopère avec un certain nombre de pays africains dans le domaine de la sécurité. Je peux vous citer le Mali, c'est le cas avec le Burkina Faso, le Centrafrique, et même la Somalie qui a tout dernièrement fait de son besoin d'avoir du matériel russe et un appui militaire. Donc, de plus en plus, la Russie, la Fédération de Russie est en train de remplacer, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire, cette force-là du maintien des Nations Unies. En ce sens-là que, bon, partout où elle est décriée, elle échoue. Je vous ai cité ces quelques pays. Allez-y voir. Le bilan est macabre. L'échec est patent. Mais il est tout à fait normal que la Russie, les pays, en tout cas, qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'appui militaire de la Russie pour régler leur pays, le problème sécuritaire en interne puisse, oui, le faire appel. D'autre part, oui, l'option d'une coopération bilatérale, elle n'est même plus à demander, elle est déjà en vogue, n'est-ce pas? Elle est déjà en exergue du fait déjà de la coopération intense qui existe au plan militaire et sécuritaire entre la Russie et ces pays dont je vous ai parlé. Et cela va en grandissant parce que il y a d'autres pays qui sont sur la liste, qui n'hésiteront pas à rejoindre dans les semaines, les mois qui suivent, n'est-ce pas, cette politique sécuritaire de la Russie, qui vise déjà quand même à redorer le blason de nos armées, d'une part, l'équipement, le matériel, la formation, un appui parfois même, l'appui même aérien, en termes de renseignement aussi, ce que ne font pas du tout, n'est-ce pas, les troupes des Nations Unies. Et je pense que on ne saurait non plus, et ce n'est pas du tout mon souhait, demander à la Russie de fournir un contingent en collaboration avec ces pays-là sous couvert des Nations Unies. Je pense que ce serait un échec. La Russie est une grande fédération, c'est une grande puissance, c'est un grand pays qui, à tout point de vue, explique, n'est-ce pas, sa politique sécuritaire en termes d'appui à ces pays africains-là, le fait savoir et va sur le terrain, faire le job. C'est totalement le contraire de ce que nous ont fait voir, n'est-ce pas, tous ces pays-là qui collaborent avec et qui fournissent du contingent, n'est-ce pas, auprès des Nations Unies. Il se passe à ce niveau-là un business qui ne dit pas son nom. C'est dommage de constater que des soldats qui devaient être payés à prix juste, n'est-ce pas, perçoivent, n'est-ce pas, un tiers de ce qui est légalement et contractuellement signé. C'est dommage, c'est une politique qui leur est propre. Et je pense que le moment viendra où, avec la naissance d'un monde multipolaire, que les données changent.
C'était Souleymane Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Il a examiné les activités des forces de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le président du Niger a donné une interview contradictoire à un média africain. Selon le leader nigérien, la politique française en Afrique n'a pas été couronnée de succès en Afrique, mais il a malgré tout tenu à défendre la présence française dans le Niger. Pourtant, dans le même temps, plusieurs observateurs du conflit en cours dans la région estimaient que les Occidentaux étaient responsables de l'instabilité dans la région. Pour décrypter ces propos, je vous présente Bello Issoufou Ahmed, président de l'association Développons le Niger, coordinateur pôle communication Parade Niger, membre de Parade International. Écoutons-le. Le président nigérien a dit que la politique française en Afrique n'a pas été couronnée de succès, mais il a défendu la présence française dans la région du Sahel auprès du Financial Times. Comment estimez-vous ces propos?
Par rapport à la contradiction constatée dans les discours du président du Niger, je pense que cela a un sens. Si nous écoutons la chronologie de ces discours, son syllogisme, comme on l'a dit. Donc, prenons l'exemple de ces deux rencontres qu'il y a eu avec la société civile. où il a clairement dit à la société civile qu'il y a un système plus fort que moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même s'il promet une chose, tant que le système n'a pas donné ça, son dernier mot, cette chose peut être remise en cause par le système. Et donc, à chaque fois qu'il anticipe sur la décision du système, c'est pas le dernier mot. Et ça peut être revu. Donc, c'est la décision du système qu'il faut toujours attendre.
Plusieurs observateurs de la crise du Sahel estiment que l'Occident porte une responsabilité particulière dans la déstabilisation de la région sahélienne. Comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait rendre la lutte antiterroriste efficace selon vous?
La logique est claire. Le Mali, avec la présence française, ils ont fait plus de 10 ans, le terrorisme ne fait que progresser. Le Burkina Faso, même chose, le Niger, même chose. Aujourd'hui au Mali, après le départ de la France, les Maliens eux-mêmes ont constaté et intercepté des actes prouvant que la France collabore avec les terroristes. Au Burkina, après le départ de la France, le président lui-même a dit qu'il y a certains supposés partenaires qui collaborent avec les terroristes. Plusieurs experts internationaux en ont parlé, que la source du financement du terrorisme vient des Occidentaux, précisément la France qui est indexée. Par rapport à tout ça là, le Niger n'a aucune raison de ne pas dire que la France est la source de la déstabilisation de l'Afrique. Et quand on remonte dans l'histoire, toutes les crises que l'Afrique a connues, où la France a de l'influence, la source était la France. Ça se lit aujourd'hui dans tous les documents, dans beaucoup de documents officiels, que la France était à la base de la déstabilisation. Prenons l'exemple de la Libye, c'était la France qui les a amenés aujourd'hui au chaos. Le Mali, c'était la France qui s'est interposée entre l'armée et les terroristes et avec Al-Qaïda jusqu'à avancer, prendre même presque un tiers du territoire malien. Burkina, même chose. Nous avons toutes les preuves et toutes les raisons de dire que la France était à la base de toute cette insécurité que l'Afrique est en train de vivre. Ça, c'est prouvé même par des experts, pas seulement les citoyens lambda. Donc, pour l'avenir du Niger, nous n'avons pas d'espoir d'avoir une sécurité sûre tant que nous continuons à collaborer avec les complices des terroristes qui sont les Occidentaux.
Vers quels autres pays, à votre avis, le Niger peut-il se tourner pour demander de l'aide et un soutien dans le domaine de la sécurité?
Je suis convaincu et sûr que le peuple, un jour, finira par dire à la Russie de s'installer ici au Niger. Et ce jour-là, je suis convaincu qu'il n'y a pas une autre puissance, à ma connaissance jusqu'aujourd'hui et à la connaissance de beaucoup de Nigériens, une autre puissance pragmatique, sérieuse et qui a démontré ses capacités et sa volonté de combattre l'insécurité comme la Russie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous n'avons pas vu encore une puissance qui a combattu le terrorisme comme la Russie ici en Afrique, qui a une volonté de coopération gagnant-gagnant avec les Africains comme la Russie. Je suis convaincu que tôt ou tard le Niger se tournera vers la Russie.
Plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali et le Burkina Faso, se sont rapprochés de la Russie. Sur fond de cela, Emmanuel Macron a alors accusé la Russie d'avoir un projet de prédation en Afrique. Pourquoi ces partenariats inquiètent-ils Paris?
C'est normal que le partenariat Russie-Afrique inquiète la France particulièrement. C'est bien normal parce que seulement, durant plus de 2 siècles, la France exploitait l'Afrique contre son gré, en complicité avec ses dirigeants, contre le gré du peuple africain. C'est parce que seulement la France sait qu'elle n'est pas honnête avec les Africains. Parce que seulement la France sait qu'elle a fait tellement du mal aux Africains. Parce que seulement la France sait que quand elle perd l'Afrique, son économie va s'effondrer. Parce que seulement la France n'a autre chose pour maintenir l'équilibre de son économie que l'Afrique. Et si elle voit la Russie avec son pragmatisme, avec sa capacité et sa volonté de stabiliser l'Afrique, du point de vue sécuritaire et de coopérer avec l'Afrique du point de vue économique, il va de soi qu'ils s'inquiètent, puisque ce serait l'effondrement de la France, ça c'est clair. Et ils ne feront pas de cadeaux par rapport à cette situation. Ils ne vont jamais l'accepter.
C'était Bello Issoufou Ahmed, président de l'association Développons le Niger, coordinateur pôle communication Parade Niger, membre de Parade International pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les dernières déclarations contradictoires sur la présence militaire française en Afrique du président nigérien et rappelé pourquoi les Occidentaux restent attachés à leur base militaire installée au Niger. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur le site internet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.